Vous écoutez France Culture.
Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chometon avec Jacques Hubert à la technique et préparés par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle, que ses fans retrouveront tout à l'heure à 10h50, comme tous les jours, pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra Maurice Ruben Ayoun pour parler de l'identité juive et de la culture européenne. Suite et milieu, ce mercredi, d'une semaine sur Aristote dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, après Frédéric Werther, venu lundi vous parler du caractère, Bernard Sicher, venu hier vous parler de Dieu, avant Francis Wolff, qui viendra demain vous parler de la politique d'Aristote ou des politiques d'Aristote, c'est selon, et Anne Merker, qui vous racontera l'éthique ou les éthiques, c'est Annick Stevens qui est aujourd'hui l'invitée des Nouveaux Chemins pour évoquer la physique aristotélicienne, dont elle est également la traductrice en français chez Vrin. Parmi les corps, les uns sont simples et les autres sont composés de cela. J'appelle corps simples ceux qui ont naturellement en eux le principe du mouvement, comme le feu et la terre avec leurs diverses espèces et les corps analogues. Il faut également que les mouvements soient les uns simples et les autres mixtes de quelque façon que ce soit. Les mouvements des corps simples sont simples, ceux des composés sont mixtes et ces derniers corps se meuvent suivant l'élément qui prédomine en eux. Bonjour Annick Stevens.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois pour y parler d'Aristote. Hier, justement dans cette semaine, on parlait de Dieu avec Bernard Sicher. Autrement dit, nous voguions très haut, pas plus haut que la hauteur elle-même, mais tout de même au-delà de l'orbite lunaire, un peu plus près des étoiles, comme on dit. Or ici, avec la physique, on va atterrir littéralement, hein, donc avec l'étude de sa physique qui concerne la région de l'univers où, à en croire Aristote, bien qu'elle-même subisse l'impulsion du premier moteur dont on parlait hier, les phénomènes sont soumis à la contingence, au hasard. Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça ?
Alors je vais être très impoli en vous contredisant d'emblée.
C'est pas impoli, c'est nécessaire, allez-y, c'est fait pour.
En disant que justement, le domaine de la physique va depuis les astres et leur régularité parfaite jusqu'au phénomène du vivant. Et donc avec aussi bien ses régularités, mais aussi certains simplement accidents ou certaines petites irrégularités. Mais si justement la physique est une science, c'est parce que elle trouve des régularités partout, dans tous les étangs qu'elle étudie. Donc aussi bien dans les astres qui sont les plus qui sont des matières incorruptibles, éternelles, mais aussi bien dans celles-là que dans les matières que l'on voit se transformer constamment.
Mais est-ce qu'à la différence du monde supralunaire, c'est-à-dire du monde astral, la saisie de régularité n'est pas entachée quand on descend en dessous de l'orbite lunaire par la possibilité du hasard, de l'accident ou bien de l'exception dont Aristote dirait peut-être qu'elle confirme la règle, mais enfin qui reste quand même une exception, un cheveu sur la soupe?
Cette division sublunaire, supralunaire, c'est une division que ne fait pas Aristote lui-même, en fait, et qui a été extrêmement exagérée à l'époque moderne, je crois, pour une sorte de simplification. C'est-à-dire que Aristote estime qu'il y a plutôt une sorte de continuum entre les phénomènes qui ont lieu sur la Terre, les phénomènes météorologiques qui ont lieu donc dans l'air qui entoure la Terre au plus près, et puis les phénomènes astraux qui sont agencés en sphère d'éther, c'est-à-dire d'un élément qui est différent des éléments corruptibles que nous connaissons sur Terre.
Il y a donc une différence de nature entre les deux.
Alors, il y a une différence de nature qui est importante, bien sûr, et qui réside principalement dans le fait que, effectivement, cet éther ne se détruit jamais. Et donc, ce qui est composé de cet éther, les astres ne se détruisent jamais et existent depuis toujours.
De sorte, pardon, juste une question, quand même, vous parliez de continuité, ça veut dire qu'il y a quand même une solution de continuité dans la continuité, il y a quand même une rupture à un moment.
C'est ça. En fait, la continuité, c'est que, et c'est ça qui permet d'avoir une science unitaire physique, la continuité, c'est que tous ces mouvements, donc les mouvements réguliers des astres et les mouvements des éléments, y compris des vivants sur la Terre, obéissent aux mêmes lois. Et c'est ça qui est vraiment étonnant dans sa physique, et je pense que c'est ce qu'on devrait le plus retenir. Ce qui peut encore nous fasciner, c'est cette idée qu'on peut trouver les mêmes lois de devenir, aussi bien pour le mouvement des astres que pour les mouvements des vivants qui ont l'air un petit peu moins réguliers. C'est-à-dire les quatre causes, en gros.
Venir, hein, justement, aux quatre causes dont vous parlez, Annick Stevens. C'est-à-dire la cause formelle, la cause matérielle, la cause finale et la cause efficiente. On va voir comment il articule tout ça. Avant cela, est-ce qu'il n'y a pas chez Aristote entre un mouvement, disons, le mouvement circulaire et astral et le mouvement rectiligne des objets auxquels nous avons affaire sous l'orbite lunaire, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout dans la volonté d'étudier ces mouvements une tension finalement entre l'ambition scientifique qui serait de dire d'établir des vérités incontestables ou définitives et la réalité d'une pratique qui viendrait contredire le caractère définitif des vérités en question?
Oui, c'est intéressant de savoir effectivement pourquoi Aristote en vient à poser des mouvements éternels et donc des moteurs aussi qui doivent être immatériels, séparés, etc. Donc tout ce passage de la physique vers la métaphysique, en fait. Quelle est la nécessité de faire ça? En fait, son point de départ, c'est la constatation que les astres, depuis qu'on les observe, c'est-à-dire depuis quelques millénaires à son époque, n'ont jamais modifié leur course. Et donc, il a un peu l'illusion de la rose vis-à-vis du jardinier, dans l'expression de Wittgenstein, c'est-à-dire que le jardinier pour la rose a l'air d'être éternel, parce qu'évidemment, sa durée de vie est tellement différente de la sienne propre.
Vous voulez dire que c'est par induction qu'il établit que les mouvements astraux sont parfaits ?
Alors, qu'ils sont, je ne dirais pas parfaits, mais en tout cas qu'ils sont éternels et qui n'ont effectivement pas l'air de disparaître. Alors, c'est une des raisons, ce n'est pas la seule. Une autre raison, c'est que c'est sa conception du temps. Et ça, c'est assez remarquable, parce que Aristote estime que le temps doit nécessairement être éternel, c'est-à-dire n'avoir jamais commencé et ne devoir jamais cesser. Pour quelle raison ? Parce qu'il considère que chaque instant dans le temps est une limite qui nécessairement divise une portion antérieure et une portion postérieure. Autrement dit, il est impossible qu'un instant soit final, soit un point final. L'instant est justement ce qui toujours cède la place à quelque chose de nouveau dans le temps. Ce qui n'est pas vrai sur la ligne, par exemple. La ligne peut s'arrêter à un point final, mais dans le temps, non. Et l'instant est ce qui justement relie toujours ce qui est passé à ce qui viendra. Et à cause de cette conception du temps, qui à mon avis est assez parlante encore actuellement, il pense que puisqu'il y a le temps éternel, il y a nécessairement aussi un mouvement qui est mesuré par ce temps éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps sans mouvement. Donc s'il n'y a pas un mouvement qui produit ce temps, il ne peut pas y avoir un temps éternel. Et donc c'est de là qu'il pense qu'il doit y avoir un mouvement éternel, toujours le même. Et donc il se dit, l'observation nous montre bien qu'il y en a un qui semble être de ce type-là, donc on peut peut-être en conclure que ce qu'on observe correspond à ce que la théorie nous demande.
Deux questions. Est-ce que c'est donc l'observation qui le conduit à considérer qu'il y a un mouvement éternel ? Est-ce que cette idée d'un mouvement éternel est née de l'observation ? Est-ce que l'origine finalement d'un principe éternitaire est une origine empirique, expérimentale ? On va partir de cette question déjà. Est-ce empiriquement qu'il établit l'éternité d'un mouvement ?
Aristote part effectivement toujours de l'observation. C'est quelqu'un qui colle à la réalité, c'est-à-dire ça ne l'intéresse pas du tout de s'évader par rapport à ce que nous donne l'observation. Et il a toute une réflexion aussi sur nos facultés cognitives, pourquoi est-ce qu'on peut faire une certaine confiance à la sensation, etc. Tout ça, c'est dans un autre traité, c'est dans le traité de l'âme qui développe tout ça. Mais donc effectivement, il pense qu'on doit toujours partir de l'observation et que ce qu'on doit chercher à faire, c'est expliquer les phénomènes. Comment se fait-il que ce qu'on observe fonctionne de cette manière-là et pas pas d'une autre. Et donc, on remonte aux causes. On doit remonter à l'explication causale de ces phénomènes. Et c'est alors qu'interviennent les raisonnements de type logique, méthodologique, réfutatoire, et qu'on avance progressivement, donc par mise à l'épreuve de propositions, d'hypothèses, on arrive progressivement à l'hypothèse qui tient le mieux, qui résiste le mieux à toutes les objections possibles. Ça, c'est sa méthode. Donc, en fait, tout son raisonnement est mis au service de l'explication des phénomènes. Et donc, bien entendu, tout doit concorder. Je veux dire, un raisonnement qui serait en désaccord avec l'observation ne serait pas retenu comme valable. Et réciproquement, d'ailleurs. Si les observations... Alors ça, c'est quand même important.
C'est ce que j'allais vous demander, puisque c'est en jeu ici la scientificité même de la démarche d'Aristote. C'est-à-dire que si une thèse voit une exception dans l'expérience, mettons que la thèse soit invalidée, dans ces conditions, tout va bien. Si en revanche, l'expérience contredisant la thèse est vécue ou donc perçue comme illégitime au motif qu'elle contredit la thèse, quitte à cet égard, donc devient un dogme, à ce moment-là, on sort de la scientificité pour rentrer justement dans le dogmatisme.
Exactement. Et il y a plusieurs exemples où on voit comment Aristote évite ça. Je veux dire, par exemple, quand il parle de la taille apparente du soleil, il dit bien, bon, là, il ne faut pas se fier à l'apparence. La taille du soleil, ça n'est pas ce qu'on voit, ça n'est pas l'impression qu'on en a. Et donc, il faut corriger la sensation par une réflexion, et bon, un calcul, etc., donc, qui existait déjà à l'époque. Pas très précis, mais enfin bon, on savait plus ou moins que le soleil, en tout cas, était plus grand que la Terre, etc. Donc en fait, il corrige l'un par l'autre. Constamment, il corrige l'un par l'autre pour arriver à le plus scientifique possible.
Le temps n'existe pas non plus sans le changement. En effet, quand nous ne changeons pas de pensée, ni par nous-mêmes, ni à notre insu, ne nous semble pas que du temps est passé. Pas davantage qu'à ceux qui, d'après la légende, ont dormi en Sardaigne à côté des héros. Lorsqu'ils se sont réveillés, car ils relient l'instant précédent à l'instant suivant et en font un seul, effaçant l'intermédiaire à cause de leur absence de sensation. Ainsi, de même que si l'instant n'était pas autre, mais le même et unique, il n'y aurait pas de temps, de même aussi, quand on ne s'aperçoit pas qu'il est autre, il semble ne pas y avoir de temps intermédiaire. Si donc il nous arrive de ne pas croire qu'il y a du temps quand nous ne définissons aucun changement, mais que notre âme paraît demeurer dans un état unique et indivisible, tandis que lorsque nous percevons et définissons un changement, alors nous disons qu'il s'est passé du temps, il est manifeste que le temps n'existe pas sans mouvement et changement. Il est donc manifeste que le temps n'est ni le mouvement, ni sans le mouvement. Annick Stevens, qu'est-ce que le temps ? Pour Aristote, s'il n'est ni le mouvement, ni sans le mouvement, s'il se repère à la faveur de ces intervalles dont le caractère ponctuel semble en démentir la continuité, qu'est-ce que le temps ? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'une telle question est légitime ou est-ce que le simple fait, est-ce qu'on peut faire l'objection augustinienne qui consiste à dire que finalement c'est temporellement que je pense le temps et que par conséquent, si je définis le temps, la définition que j'en donne étant elle-même temporelle, elle devient caduque aussitôt ?
Oui, donc en fait, on trouve chez Aristote à la fois une allusion donc à l'expérience subjective du temps, c'est le passage que vous avez cité, c'est-à-dire comment est-ce que nous ressentons en fait la durée de certains mouvements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs d'ailleurs, même si on n'a pas de sensation de l'extérieur, néanmoins, il se passe dans notre esprit des mouvements, une pensée, une rêverie, un endormissement et un réveil. Bon, tous ces mouvements-là, ces changements-là suffisent à nous faire sentir que du temps s'est passé, qu'il y a eu une durée, même si on peut se tromper sur la durée. Et donc cette expérience subjective du temps, que tout le monde fait quotidiennement, permet à Aristote de lier inséparablement le temps au mouvement. Ça lui permet juste de dire ça. Mais ça ne lui permet pas de passer au stade objectif, c'est-à-dire à dire objectivement qu'est-ce qu'est le temps indépendamment de la manière dont nous le ressentons. Pour pouvoir le dire objectivement ou scientifiquement, il est obligé d'avoir une réflexion sur ces continus liés entre eux que sont la grandeur, le mouvement, et puis alors le temps qui vient après. Le mouvement est un continu, c'est-à-dire que vous avez une série infinie d'étapes entre un terme initial et un terme final, une série infinie. De la même manière que la grandeur, bon, aussi bien une distance parcourue ou bien un développement, par exemple, d'un être vivant. Donc toutes ces grandeurs sont, elles aussi, composées d'une infinité d'étapes, parce que vous pouvez toujours diviser, hein, vous ne pouvez jamais saisir l'infiniment petit, vous pouvez toujours diviser davantage dans ces continus. Et ça, c'est encore une fois, fois l'expérience sensible qui nous le donne. Alors bien sûr, on pourrait émettre un doute hyperbolique sur notre accès à l'objectivité du mouvement, mais ça c'est ailleurs aussi qu'il affronte cette possibilité du doute, c'est dans la métaphysique aussi. Mais en attendant, il a ce temps objectif qu'il essaye de rendre scientifiquement mesurable, justement grâce au mouvement régulier des astres. C'est-à-dire, il nous dit, le retour régulier du jour et de la nuit nous donne une mesure, toujours la même et partout la même. Et d'autre part, nous avons aussi l'année, qui est le retour perpétuel du soleil, du lever du soleil et du coucher du soleil au même point précis. Et donc ça aussi, ça nous donne une mesure de référence. Et à partir de ces références, nous choisissons alors de les diviser en autant d'heures, autant de minutes, etc. Et donc en fait, comme ça, on se donne simplement des mesures de référence. Elles sont en grande partie conventionnelles. Mais il y en a certaines qui sont naturelles, qui nous sont données naturellement et nous permettent après de faire des conventionnels, basés sur des naturels. Et donc c'est comme ça qu'il relie donc notre expérience subjective du temps à ce que peut être un temps objectif, c'est-à-dire, et alors là intervient la fameuse et difficile définition du temps, comme le nombre du mouvement selon l'antérieur et postérieur.
Le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. L'étudiant que j'étais s'est cassé le nez sur cette formule pendant des années. Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne et celle de nos auditeurs, Annick Stevens?
Ça a été très vite reproché à Aristote d'avoir choisi le terme nombre. Plotin notamment, lui, qui a une toute autre conception du nombre, le reproche d'avoir utilisé ce terme-là pour parler du temps. Mais Aristote lui-même prenait beaucoup de précautions dans la physique. Il disait qu'il ne fallait pas le comprendre comme le nombre mathématique. Ce n'était pas du tout le nombre par lequel on nombre quelque chose, à l'aide des chiffres, en fait. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là. C'était le nombre au sens de la durée. Il n'a pas le terme durée. Mais juste après Aristote, les stoïciens et les épicuriens vont reprendre la même définition du temps en remplaçant le terme nombre par le terme diastema, en grec, c'est-à-dire justement étendue, extension, intervalle ou durée.
Il cherchait en fait le terme durée. Mais de terme durée au sens bergsonien du terme, au sens où ce serait non quantifiable. Est-ce que le temps pour Aristote est discontinu ou continu? Est-ce qu'il est quantifiable? Est-ce qu'en le quantifiant, on ne le réduit pas à de l'espace? Et ce qui pose là même d'ailleurs toute une série de problèmes quant à la saisie même du temps. Est-ce qu'on ne perd pas le temps en essayant de le penser de cette façon? Comment Aristote parvient-il à expliquer ce qui, par-delà l'apparence du temps ou les manifestations du temps, demeure, donc indépendamment de la perception qu'on en a?
Bien sûr, vous faites allusion en fait à un débat effectivement en philosophie contemporaine qui est toujours très vif. Et là, quand on parle de durée à propos d'Aristote, ce ne peut pas être la durée bergsonienne, effectivement. C'est une durée qui est
mesurable. Le temps n'est pas continu.
Pour Aristote, le temps est parfaitement continu et même objectivement, il est régulier, il est régulièrement continu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'incertitude sur la manière dont un événement, par exemple, se passerait plus rapidement ou moins rapidement, relativement à différentes personnes ou expériences. Bon, s'il est vrai qu'on peut avoir une saisie subjective du temps qui est très relative et qui dépend de chacun. En revanche, Aristote maintient toujours qu'il y a un temps qui est une mesure objective, c'est-à-dire qu'il y a une régularité et une continuité présente partout, présente dans tout l'univers en même temps.
Quand j'en aurai assez d'entendre les enfants pleurer, crouler sous les cendres, quand j'en aurai assez des larmes, des cris, du sang et du vacarme, quand j'en aurai assez du monde à moi, la lune blonde. Terre, lune, terre, lune, ce soir j'ai mis.
Annick Stevens est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi pour parler de la physique d'Aristote dans le cadre d'une semaine entière que les Nouveaux Chemins consacrent aux stagirites.
Terre, lune, j'ai quitté ma vieille atmosphère, J'ai laissé les morts et les guerres. Au revoir. Dans le ciel piqué de planètes, toute seule sur une lune vide, je rirai du monde stupide et des hommes qui font les bêtes.
Annick Stevens, deux choses difficiles chez Aristote, il y en a plus que ça, mais je suis beaucoup plus gêné que je ne le dis d'ailleurs par ce que vous m'avez dit au début, à savoir que la distinction entre les orbites sublunaires, entre les sphères sublunaires, la sphère sublunaire et les espaces supralunaires, quand vous revenez sur cette distinction en disant qu'elle n'est pas aristotélicienne, ce qui d'une certaine façon casse la baraque, pose un vrai problème, et puis permet de se demander dans quelle mesure il y a continuité ou rupture entre les deux espaces, entre le lieu de l'éternité et le lieu du temps. Et à cette difficulté s'ajoute une difficulté supplémentaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure du temps, je vous demandais s'il était continu ou discontinu, vous m'avez dit qu'il était continu, dans la mesure où, je ne veux pas déformer votre pensée, mais dans la mesure où il était en un sens indéfiniment divisible, ou infiniment divisible. Oui. Une continuité qui serait une divisibilité infinie, est-elle véritablement une continuité, ou n'est-ce là que la continuité du cinématographe, comme dirait encore Bergson, où 24 images secondes donnent l'illusion de la continuité?
Oui, oui. On doit faire intervenir là le couple typiquement aristotélicien des notions de puissance et d'acte. Parce que justement, le continu, il est divisible en puissance, mais absolument pas en acte. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible de diviser effectivement un continu dans l'ensemble de ses divisions possibles, parce que précisément, elles sont infinies. Donc toute l'étude de l'infini, qui est quand même assez subtile dans la physique, vise à montrer ça, qu'on a là une infinité qui n'est divisible qu'en puissance. Et ça veut dire que dans un continu, vous pouvez faire des divisions. Alors, soit des divisions réelles dans une ligne, là, vous pouvez vraiment la séparer, deux parties. Dans le temps, ce ne sera même pas des divisions réelles, puisque le cours du temps, vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais vous pouvez déterminer des périodes. C'est-à-dire, voilà, on prend tel instant comme limite, comme repère, et tel autre, et on détermine une période de temps. Donc, on peut installer de cette manière-là des limites. Mais ces limites, alors c'est ça la notion typiquement aristotélicienne aussi de la limite, ces limites sont des infiniment petits, c'est-à-dire des non atteignables. Ce ne sont pas des points qu'on peut vraiment atteindre. Et par conséquent, on n'a pas une divisibilité en actes. C'est pour ça qu'il dit que l'infini, il existe, il reconnaît l'existence d'un infini, mais seulement en puissance. C'est ça qu'il veut dire par là, en puissance, parce qu'on n'atteindra jamais l'ensemble de toutes les divisions infinies qui existent dans un continu.
Tous les philosophes qui se sont posé la question de la divisibilité du temps, ensuite, Leibniz par exemple, dit que le temps est une perception confuse. Tous les philosophes qui se sont interrogés donc sur le caractère divisible ou non divisible du temps, Leibniz ou Bergson par exemple, l'un pour dire que le temps était une perception confuse puisqu'il n'y avait qu'une connaissance éternitaire des choses en vérité, que le point de vue de Dieu abolissait le point de vue du temps, pour le dire rapidement, ça c'est Leibniz, Bergson pour dire que la mathématique justement était incapable de penser le mouvement temporel, le caractère temporel de l'existence, dans la mesure où le temps, ça n'est jamais du temps qu'on saisit quand on le divise, quand on le découpe à l'infini, de la même façon que, enfin, ça n'est pas du temps, ça n'est que de l'espace. Tous les philosophes qui se sont posé cette question en viennent à un moment ou à un autre à s'interroger sur la valeur métaphysique de l'unité qui serait au principe de cette division. Chez Leibniz, c'est la monade, un élément non quantifiable qui donc montrerait, justifierait qu'on passe d'une représentation sensible, matérielle des choses à un substrat métaphysique des choses, qui considérerait que voilà, derrière l'apparence de la sensibilité, du flux, il y aurait une entité métaphysique absolument simple et dont l'absolue simplicité n'est pas à notre portée. Est-ce que chez Aristote, là, le caractère infiniment ou indéfiniment divisible du temps culmine avec la constatation, la nécessité finalement d'une appréhension métaphysique des choses, ou est-ce qu'il s'en tient justement à l'espace physique ?
Je pense que ce qui est remarquable chez Aristote, c'est que, au fond, il est d'une grande simplicité. Il se contente, un peu comme le principe du rasoir d'Occam, il se contente de ce qui est juste nécessaire, le minimum nécessaire pour expliquer
Il faut rappeler aux moins érudits de nos auditeurs, dont je fais partie, comment fonctionne le rasoir d'Occam.
Donc c'est un principe méthodologique qui consiste à ne pas multiplier les entités explicatives qui ne sont pas strictement nécessaires. Donc on s'en tient à poser des hypothèses sur ce qui est absolument nécessaire pour expliquer un phénomène, mais on ne les multiplie pas. Et Aristote est très très attaché à ce principe. Ce qui fait que, alors, le peu de métaphysique qui est appelé par la théorie physique, c'est précisément, et c'est là je dirais que est la grande rupture, pour rejoindre le début de votre question, la grande rupture chez Aristote, c'est entre ce qui est physique et ce qui n'est plus physique, et par quelle nécessité est-ce qu'il impose l'existence? C'est à cause du fait que, voilà, il faut garantir que le mouvement ne s'arrêtera jamais, que le mouvement de l'univers ne s'arrêtera jamais.
Et donc nécessité d'une métaphysique qui va au-delà de la physique. Chez Descartes, nécessité de l'existence de Dieu qui va au-delà du sentiment de mon existence dans les méditations métaphysiques. Il y a bien souvent chez les philosophes une trajectoire qui culmine avec la métaphysique. Cette semaine, on a étudié la métaphysique avant la physique. On a bien fait ou on a eu tort?
Je pense qu'on peut prendre Aristote par tous les côtés, parce que il y a suffisamment d'indépendance aussi dans la métaphysique pour qu'on puisse la commencer sans la physique. Mais c'est vrai que la physique fait référence à une étude qui doit la suivre à plusieurs reprises. Alors non seulement à propos
comme son
de
nom
cette
l'indique,
question,
métaphysique,
voilà,
c'est ce qui
même
vient
si
après,
évidemment le nom est postérieur, même si comme tout le monde le sait, le grand drame de l'interprétation d'Aristote, c'est qu'on ne sait pas si ce traité de métaphysique était destiné à être unitaire tel qu'on le possède maintenant. On ne sait pas trop exactement quand il a été rédigé. On n'est même pas sûr qu'il a été rédigé dans son aspect actuel par Aristote lui-même. Enfin bref, donc, il y a de très très grands mystères, une grande difficulté d'interprétation simplement matérielle. Mais bon, il n'en reste pas moins que la physique est dépassée par la métaphysique pour cette histoire, parce que, justement, il existe des étangs qui ne sont pas physiques. C'est là qu'il y a la grande rupture. Il y a des étangs qui ne sont pas physiques, ce que ne reconnaissaient pas les physiciens présocratiques. C'est en cela que Aristote se démarque par rapport à eux. Et ces étangs qui ne sont pas physiques sont des étangs absolument éternels et immobiles de tout mouvement possible, qui sont totalement détachés de toute matière.
Est-ce qu'on peut parler de corps quand même?
Non, justement. On ne peut pas parler de corps parce qu'on n'a absolument aucune matière. Et c'est pour ça qu'il est obligé de les concevoir comme des pures pensées.
Mais est-ce qu'Aristote n'en vient pas de temps en temps, ou de temps en étant, à attribuer des qualités à ces étangs incorporels? Est-ce que le simple fait d'ailleurs de dire qu'ils n'ont pas de corps n'est déjà pas abusif, n'est déjà pas un abus de langage?
Alors ça, c'est justement ce qui est intéressant.
Est-ce que ça n'est pas l'attribution d'une qualité, fût-ce une qualité négative, que de dire de l'étang qu'il est incorporel, justement?
Absolument. La métaphysique d'Aristote, donc si on appelle métaphysique cette partie consacrée à l'étude des pensées motrices là, de l'univers, la métaphysique n'est pas, ne dépasse pas les possibilités de notre raison, de notre raisonnement. Elle est toujours soumise au raisonnement. Et on n'est pas dans une théologie nécessairement négative. On est toujours dans le raisonnement. C'est pour ça que qu'elle continue à être très rationnelle, très rationaliste. Elle continue à fonctionner par argumentation. Attendez, j'ai perdu le fil de votre question.
Est-ce que ça n'est pas abusif? Est-ce que ça n'est pas un abus de langage d'attribuer
étangs
incorporels la qualité d'étangs incorporels?
Justement, ça c'est tout à fait intéressant, c'est que dans la métaphysique, il n'y a pas seulement une étude des étangs non physiques, il y a aussi une étude générale de tous les étangs en tant qu'étangs. Et du fait même qu'Aristote soutient qu'il y a une étude générale de tous les étangs, ça veut dire qu'on peut leur attribuer à tous des caractéristiques communes. Ils ont tous quelque chose de commun, et ce sont les fameuses propriétés par soi de l'étang en tant qu'étang, telles que l'unité, la multiplicité, le fait de pouvoir être antérieur et postérieur, cause et effet. Bon, ce genre de relations qui sont des structures tellement universelles que justement, elles peuvent concerner aussi bien des étangs physiques que des étangs non physiques. Et de cette manière-là, encore une fois, il n'y a jamais rupture totale chez Aristote dans les domaines de la science. Il y a toujours quelque chose qui réunit ces domaines de la science. Alors, bien sûr, il y a des ruptures partielles parce qu'il y a d'autres propriétés qu'on ne peut attribuer qu'à certains, séparément des autres, qu'à certains genres et pas à d'autres genres. Mais il y a toujours cette idée que tout ce qui existe, du fait même que cela existe, possède certaines propriétés communes. Il n'y a rien au-delà de l'être. Pour faire la différence justement avec Plotin, par exemple. Il n'y a rien au-delà de l'être chez Aristote.
Rappelons que chez Plotin, qui commente un passage de la République de Platon, il existe quelque chose qui est au-delà de l'être, si on traduit ou s'il y a par être, qui est au-delà de l'être, c'est ce qu'il appelle l'imbien, dont Plotin fait le principe même. C'est-à-dire que pour Plotin, exister, c'est déjà une façon de déchoir par rapport à, et le mot est impropre, à une sorte d'existence supérieure. On n'est pas ici chez Plotin, nous sommes chez Aristote. Et on va voir d'ailleurs que l'ambiance est tout à fait différente. Écoutez. Les animaux, quand ils sont jeunes, font plus de femelles que dans leur pleine vigueur. De même, dans un âge plus avancé, ils en font aussi davantage. C'est que, dans les premiers, la chaleur n'est pas encore complète et que, dans les autres, elle n'est plus suffisante. Les corps qui sont plus humides et plus féminins produisent également plus de femelles et les spermes liquides en font plus que les spermes compacts et épais. Toutes ces différences tiennent au défaut de chaleur naturelle. Il y a plus de mâles quand le vent souffle du nord que quand il souffle du midi. Dans ce dernier cas, les organes élaborent plus d'excrétions et plus l'excrétion est considérable, plus la coction en est difficile. Le sperme des mâles devient alors plus liquide et chez les femmes, l'excrétion mensuelle subit cette altération. C'est encore par la même cause que les menstrues régulières sont plus abondantes à la fin des mois, car cette époque du mois est plus froide et plus humide, par suite de la décroissance et de la disparition de la lune. Durant l'année entière, c'est le soleil qui produit l'hiver et l'été. C'est la lune qui les produit dans le cours d'un même mois. Ces changements ne tiennent pas à ces phases, mais à la lumière qui tantôt augmente et tantôt diminue. Les bergers assurent aussi que ce qui influe sur la production des femelles et celle des mâles, ce n'est pas seulement que l'accouplement ait lieu par un vent du nord ou un vent du midi, mais encore que les animaux accouplés regardent vers le midi ou vers le nord. Le moindre déplacement de ce genre modifie le degré de chaleur et de froid, et ce sont le froid et la chaleur qui déterminent la génération et le sexe.
Le rabier recoule le moineau, Pépi caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou hue, râle la panthère et craque la grue. Toi, 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 sois belle et tais-toi. L'éléphant barrette la jument et nie ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coasse, piaule le poulet. Le corbeau croasse, cajole le jet. Toi, 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 toi.
Annick Stevens est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler de la physique aristotélicienne ce mercredi dans une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à Aristote.
Le cerf brame, l'âne brêle, le lion rugit, cancane, la canne, le taureau mugit, le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte, siffle le serpent. Toi, 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 sois belle et tais-toi.
Annick Stevens, le texte que j'ai lu tout à l'heure n'est pas extrait de la physique d'Aristote, mais de Génération des animaux, le traité de Génération des animaux, chez Aristote. Où l'on découvre alors justement les limites peut-être de la scientificité d'Aristote, ou en tout cas l'ambition qui aura été celle de, par exemple, de Francis Bacon de revenir sur l'organon scientifique d'Aristote en disant que c'était une méthode pour enfants et en disant qu'il y avait mieux à faire, qu'il fallait raffiner les outils d'étude et qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça par induction uniquement en passant du singulier ou du particulier au général, limites qui font également verser Aristote, il faut le signaler, dans la poésie. On est ici dans un registre, pour le coup, qui est poétique. Alors peut-être n'était-ce pas son ambition quand il a écrit le traité de Génération des animaux, mais enfin, on est ici en pleine poésie. Et puis également, qui renvoie à la valeur, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'empirisme dans sa méthode, le statut de l'expérience.
Il y a une grande différence en fait entre la physique elle-même, le traité de physique, qui s'en tient à des grandes généralités, à des explications structurelles très générales, et les traités biologiques, où Aristote entre dans des détails extrêmement précis.
Et c'est extrêmement drôle, il faut le dire aux auditeurs. Voilà. C'est très amusant à lire, hein. Le vent du midi, le vent du nord, enfin c'est assez parfait.
Oui, c'est amusant et en même temps on s'éloigne de plus en plus de la scientificité. Et je dirais que curieusement, on s'en éloigne par excès de scientificité. C'est-à-dire qu'Aristote veut tout expliquer. Et je pense que c'est ça en fait qui le mène à des explications qui deviennent complètement farfelues. Parce qu'il veut tout expliquer. Il a l'impression que tout doit avoir une raison. Et donc, ce qui est probablement vrai, je veux dire, dans l'embryogenèse, effectivement, si un gène se met à agir de telle ou telle manière, c'est parce qu'il se passe quelque chose qui l'active ou qui ne l'active pas. Donc effectivement, il doit y avoir des tas d'éléments qui interviennent dans le fait que, de l'activation des gènes. Donc ce n'est pas totalement faux, mais en même temps, comme il n'avait pas du tout les moyens d'observer ce qui se passait effectivement, ben, il est obligé d'inventer des raisons qui sont amusantes, mais bon, qui n'ont plus grand-chose de pertinent.
Est-ce que n'apparaît pas ici donc une tension propre au travail d'Aristote entre, disons, ce qu'on a appelé les deux commencements de la science, à savoir, d'une part, ce qui est le plus clair pour nous, l'expérience sensible, et ce qui est le plus clair du point de vue de la nature elle-même, c'est-à-dire les premiers principes. Est-ce que finalement, ce double départ, ce double commencement de la science aristotélicienne ne pose pas problème, en particulier quand il s'agit ici de s'en tenir à des observations dont les instruments étant eux-mêmes limités, des observations qui débouchent sur des considérations farfelues, poétiques.
Dans sa théorie de l'induction, Aristote dit qu'il ne suffit pas de multiplier des cas particuliers pour pouvoir en tirer du général. Il dit bien qu'on en tire une règle générale que quand on a trouvé la cause de ces cas particuliers, la cause du fait que ça se passe toujours d'une certaine façon et pas d'une autre. Et donc,
mais est-ce que ça n'aboutit pas à l'invention d'une cause, ça ?
C'est-à-dire que c'est pour être certain qu'il s'agit bien de cette cause-là, il faut faire effectivement des expériences, par exemple des expériences négatives, voir si on change quelque chose, est-ce que ça continue toujours de la même façon, etc. Donc, dans sa théorie de la science, il est conscient de ce problème. Et donc, mais c'est vrai qu'il ne l'applique pas toujours, il se laisse manifestement entraîner par ses observations quand il s'agit d'entrer dans des détails très très pointus à propos des animaux.
Imaginons par exemple un cas de figure où un sperme compact et épais ne produit pas une femelle. Est-ce que ce cas de figure serait de nature à invalider la théorie aristotélicienne d'un rapport direct de causal entre la compacité du sperme et l'engendrement d'une femelle ?
Il est certain qu'il y a des cas où il y a une sorte d'entêtement d'Aristote à arriver à des explications... alors même qu'il ne peut pas atteindre un certain degré de certitude. Et il y a aussi parfois, c'est très rare, mais enfin c'est vrai que ça, il faut reconnaître que ça arrive, parfois des raisons axiologiques, c'est-à-dire que parfois il fait intervenir des valeurs, des jugements de valeurs, et il estime que par conséquent, on peut utiliser des arguments de valeurs pour faire intervenir dans un raisonnement scientifique. Je veux dire, par exemple, la valorisation du mâle par rapport à la femelle lui fait dire beaucoup de bêtises à propos de la génération des animaux, et alors que rien dans l'observation ne lui permettrait de dire ça. Alors, souvent, ces arguments interviennent à côté d'autres arguments qui sont plus logiques ou plus pertinents ou plus scientifiques. Un exemple, c'est que donc il considère pour une question de valorisation, que c'est le mâle qui apporte la forme, tandis que la femelle n'apporte que la matière. Mais en même temps, il a une raison qui n'est pas idiote du tout et qui s'y ajoute, qui est que si les deux apportaient la forme, alors comment de deux formes, une seule adviendrait dans l'embryon. Ça, c'est un vrai problème qui, effectivement, ne peut être résolu que par la théorie actuelle de l'ADN, c'est-à-dire que des deux brins, chaque parent n'apporte qu'un seul. Et puis, on en recompose deux. Et donc la question, l'objection n'était pas du tout non pertinente, elle était très exacte, mais sa réponse, à cause de ses préjugés axiologiques, a été mauvaise.
Il semble à certains que la nature est l'étance des étangs qui sont par nature et ce qui y appartient en premier à chaque chose, sans être ordonné par soi-même, comme la nature du lit est le bois et de la statue le bronze. Antiphon en donne pour indice que si l'on enterre un lit
et que la putréfaction ait la force de faire monter une pousse, cela ne deviendra pas un lit, mais du bois. Annick Stevens, que veut-il dire quand il dit que si on enterre un lit, c'est du bois qui pousse ? On va en venir aux quatre causes.
Voilà, c'est ça. Il cherche, au fond, qu'est-ce qui est permanent dans le devenir et qu'est-ce qui se modifie. Quelles sont les conditions permanentes pour que le devenir puisse avoir lieu. Et c'est comme ça qu'il veut dire qu'au fond, ce qui est permanent, c'est la matière. La matière du lit, c'est le bois. Et si... Et on peut transformer ce lit en d'autres choses qu'on fera en bois. Et on voit bien aussi que le bois, il est venu d'autres choses avant qu'on l'utilise. Et par conséquent, c'est bien ça qui reste permanent sous toutes ces transformations. Donc la matière est ce principe permanent qui reçoit des formes différentes. Et à partir de là, il construit sa théorie, il est morphiste, donc de la complémentarité entre une matière sous-jacente...
Il est morphiste, c'est forme et matière.
Voilà,
matière
et la forme. Matière,
voilà, huler la matière, morpher la forme.
Et voilà. Et alors, il faut distinguer le fait que... Alors, c'est difficile de comprendre ce que c'est exactement la matière, parce que la matière, ce n'est pas le corps, justement. Le corps, c'est déjà un composé de matière et de forme. La matière, c'est ce qui reste si on enlève la forme. Donc, on enlève, par exemple, d'un être humain, sa forme d'être humain, c'est-à-dire l'ensemble des caractères qui font que c'est un être humain, caractères aussi bien physiques que mentaux, etc. On enlève tout ça, et bien on voit ce qui reste. Et ce qui reste, ben, ce sera des os, de la chair, des éléments matériels.
Oui, mais pardon, mais ces os, les os, la chair, etc. De là, l'extrême difficulté de se représenter la matière chez Aristote. Les os, la chair, conservent une forme. Un bloc de marbre informe. Informe au sens d'une attente déçue, d'une attente humaine déçue. Si vous attendez à voir la Vénus de Milo et que vous voyez juste un bloc de marbre, vous direz ce bloc est informe. Mais en soi, il n'est pas informe. Il a une forme. Donc se représenter la matière sans la forme, c'est très difficile.
Exactement. Donc dès qu'on dépouille une matière de sa forme, en fait, on retrouve une forme antérieure qu'elle avait déjà, cette matière. Et on peut remonter de cette manière-là aux premiers éléments, c'est-à-dire que la chair et les os sont composés d'un certain mélange des quatre éléments premiers. Alors qu'est-ce qui arrive quand on arrive aux quatre éléments premiers, justement ? Est-ce que ce sont des matières ultimes, tout à fait ultimes ou pas ? Aristote dit que en acte, ce sont des matières ultimes, c'est-à-dire qu'il est impossible de leur retirer cette forme donc de eau, air, feu, terre, et de trouver une matière qui est encore une forme, c'est-à-dire qu'on puisse nommer, dont on puisse donner des caractères. C'est-à-dire que si vous essayez de transformer l'un de ces éléments, il va se transformer en un autre et il acquérera directement une autre forme. Autrement dit, il y a bien une matière qui est commune aux quatre, parce que c'est la condition pour qu'ils puissent se changer l'un en l'autre. Donc il y a une matière commune à l'eau et à l'air qui fait que l'eau peut s'évaporer et l'air se condenser. Mais cette matière commune, on ne l'atteint jamais. C'est-à-dire elle n'apparaît jamais telle qu'elle, nue et sans autre forme.
Il y a une phrase que citait Francis Wolff, qui sera notre invité demain. Citait Francis Wolff quand il enseignait Aristote à l'agrégation, ce qu'il continue de faire d'ailleurs. Francis Wolff, parlant de matière, disait ceci. Une phrase d'ailleurs, quand on était quelques-uns à l'écouter, très nombreux à écouter les cours de Wolff. Et on a eu vraiment tous ensemble, quand on l'a écouté dire ce qu'il disait, à la fois le sentiment d'atteindre des sphères inouïes et en même temps de toucher le fond. Il disait « La matière aristotélicienne est, littéralement, je le cite, si bien tout ce dont le reste est dit qu'elle n'est elle-même rien de dissible. » Est-ce qu'on peut dire ça ?
Absolument, c'est la définition de la matière. La matière, c'est ce qui n'est rien par elle-même, mais reçoit tout par les formes, les multiples nombres et quasiment infinis de formes qui peuvent être reçues par cette matière. Donc la matière par elle-même, c'est de l'indéterminé. C'est de l'indéterminé ou encore, en termes aristotéliciens, de la pure puissance. De la pure puissance de devenir toute une série de formes.
Alors, c'est donc que la matière n'est pas à portée de main. La matière n'existe pas sous la forme qu'on lui connaît, puisqu'elle n'existe que sous une forme, quand bien même elle serait non formée par l'homme.
C'est ça. Et c'est pourquoi Aristote dit qu'on ne peut connaître la matière que par analogie. C'est-à-dire qu'on peut simplement faire des analogies en disant « Voilà, je sais que la matière du lit, c'est le bois. Donc je vois bien comment le lit vient du bois. Et donc, je peux faire une analogie en essayant de remonter jusqu'à des matières qui seraient premières. » Mais seulement par analogie, parce que je ne pourrais jamais les constater en elles-mêmes. Je ne les constaterai jamais que par l'intermédiaire d'une forme.
Ce qui est extraordinaire dans les livres d'Aristote, c'est que les considérations les plus farfelues voisinent avec des intuitions,
ontologique, d'une puissance, enfin le mot est de lui aussi d'ailleurs, d'une puissance phénoménale. Il faut ici prendre ça au premier degré. Je vous ai dit tout à l'heure, Annick Stevens, qu'on reviendrait sur les quatre causes. Hein. On va en parler puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Quatre causes, cause efficiente, ce qui provoque le mouvement, cause matérielle, les reins, le bois, la cause formelle, ce qui spécifie la matière, ce qui informe la matière, et la cause finale, c'est-à-dire le but en vue duquel tel ou tel changement a lieu. Donc, cause efficiente, cause matérielle, cause formelle et cause finale. Armé de ces quatre causes, Aristote entreprend de connaître donc le monde, la physique, la nature, les objets. Que vaut, selon vous, Annick Stevens, la réduction qu'il a suivie de ces quatre causes à deux d'entre elles, c'est-à-dire la cause efficiente et la cause finale? Que vaut finalement la suppression, la dilution de la cause matérielle et de la cause formelle? La cause formelle étant devenue un avatar de la causalité finale et la cause matérielle un avatar de la causalité efficiente.
Ah, mais je dirais pas du tout ça. Je pense que même dans la métaphysique, les quatre causes demeurent absolument nécessaires pour une explication complète. Mais il se fait que selon les genres des temps qu'on étudie, certaines causes peuvent être attribuées à la même entité. Et c'est typiquement le cas dans les étangs physiques vivants, parce que dans le vivant, justement, le principe de mouvement est en même temps le principe formel et en même temps le principe final. C'est-à-dire que l'eidos contenu dans la semence eidos d'un être vivant, l'eidos, pardon, la forme, hein, c'est, donc pour la forme on peut dire morphée ou eidos, et donc l'eidos, la forme qui est contenue dans la semence d'un végétal ou d'un animal, possède donc toute l'information nécessaire pour le développement complet de cet être individuel. Et par conséquent, elle est aussi la cause finale, puisque la finalité du mouvement, c'est d'arriver au plein épanouissement de cet être individuel. Donc elle est en même temps formelle et finale. Et elle est en même temps efficiente, parce que c'est aussi elle qui donne l'impulsion à la transformation de la matière. C'est parce qu'il y a contact entre cette information et la matière adéquate pour créer du vivant, que ça déclenche le processus de transformation de la matière. Et donc, on concentre dans l'eidos, dans la forme, les rôles de trois causes. Mais la matière est absolument nécessaire à côté de ça et indépendante. Elle n'est pas réductible, justement, à la forme. Donc, elle reste extrêmement importante. Je pense qu'il n'y a jamais d'évacuation des deux, dans aucun type d'étang. Alors, il est vrai que, quand on parle maintenant des moteurs ultimes de l'univers, bien sûr, on peut leur donner une forme, puisque quand on dit ce que c'est, on en donne la forme. Ils n'ont pas de matière, puisque par définition, effectivement, et ce sont les seuls étangs qui ne sont pas matériels. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on élimine la matière. Ils n'ont pas de cause efficiente, eux, puisqu'ils n'ont jamais été générés, ils n'ont jamais été créés, ils n'ont jamais été produits, et ils ne disparaîtront jamais. Donc, ils n'ont pas besoin non plus d'une cause productrice efficiente qui les crée. Et de cause finale, en gros, qu'est-ce qu'ils ont comme cause finale? On peut dire qu'ils ont l'utilité de mouvoir l'univers, mais est-ce que c'est vraiment leur fin, c'est-à-dire leur but? Je ne pense pas qu'Aristote même dirait ça. Il dirait plutôt que leur but, c'est que c'est leur propre vie qui est la plus heureuse des vies possibles.
Quand on lit Aristote, on se dit que c'est un philosophe du mélange, hein, qui mélange l'éternité au temps, qui mélange les causes entre elles, qui les mélange peut-être d'ailleurs pour les distinguer, qui mélange aussi le caractère originel d'une prédisposition au caractère acquis d'une prédisposition qui serait développée par l'habitude. On ne sait jamais vraiment finalement ce qui est premier chez Aristote. Hein. Il dit par exemple dans l'Éthique à Nicomaque, on en parlera vendredi, que les choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. Et on retrouve ces allers-retours entre la physique et la métaphysique dont on ne sait jamais ce qui est premier, peut-être premier dans l'ordre de la rédaction ou dans l'ordre chronologique, mais ce qui est fondamentalement premier. Il y a chez Aristote le sentiment effectivement du point de vue de sa lecture, d'une absence de rupture entre ces différents travaux. Qu'en dites-vous en peu de mots?
Oui, je crois que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Hegel aimait beaucoup Aristote. C'est-à-dire qu'on a chez Hegel cette même idée que dans un système où on mélange on fait entrer en complémentarité de la logique, de la physique, de la philosophie de l'esprit, et bien dans un système comme ça, tout est en interaction et chaque partie ou niveau ou aspect ou approche éclaire les autres et réciproquement. Ce qui fait qu'on peut effectivement entrer dans ce système par diverses portes et on retrouvera toutes les autres. Et c'est pareil chez Aristote, effectivement. Parce que justement, il n'y a pas de simplification. Parce que justement, le foisonnement, en fait, de tout ce qui nous est donné dans les différents types de connaissances, ce foisonnement ne peut pas être réduit. Il doit être maintenu.
Bien que l'année dernière, j'ai chanté devant vous les 32 manières de planter les choux. Je ne suis pas content car j'ai pu constater que vous les plantez mais sans rien récolter. Êtes-vous inhabile ou trop libertin? C'est pourtant facile de faire des bambins. Il ne s'agit pas d'un truc surhumain.
Merci Annick Stevens. Je rappelle que la physique d'Aristote existe dans votre traduction chez Vrin avec une introduction de Lambros Koulibaritzis.
Un petit mouvement, mesdames, messieurs, allons vivement. Un bon petit mouvement.
Et voilà, un léger mouvement de la tête à 10h50 sur France Culture et on retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Oui, on change complètement de sujet et donc de continent puisqu'on parle d'identité juive et de culture européenne à l'occasion de la parution en poche chez Pocket d'un livre de Maurice Ruben Ayoun, qui est philosophe, spécialiste notamment de Maïmonide et de la pensée judéo-allemande moderne, et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce livre réunit des textes et des articles qui ont été publiés au cours de ces 25 dernières années, dans divers journaux et revues, et qui portent sur le thème donc de l'identité juive au sein de la culture européenne. Alors si vous avez choisi de donner ce titre à votre recueil, donc je le rappelle, l'identité juive et la culture européenne, sous-titre « Sachons préserver notre héritage commun », est-ce que ça veut dire que pour vous, l'identité juive intégrerait en son sein, en sa définition même, la culture européenne, et donc que la culture européenne serait constitutive de l'identité juive? Maurice Ruben Ayoun.
Oui, vous avez parfaitement bien résumé le fond de ma pensée. Je pense que la culture européenne résulte d'une sorte de tension polaire entre deux préoccupations majeures. D'abord, l'héritage des religions monothéistes par la révélation, donc des sens particulièrement religieuses. Et je rends hommage à ma collègue de tout à l'heure, puisque en parlant d'Aristote, j'ai cru reconnaître tout ce que Maïmonide avait fait pour essayer de judaïser, si je puis dire, l'aristotélisme arabo-musulman dans son guide des égarés. Et donc, d'une part, ce pôle religieux, et d'autre part, ce pôle spécifiquement non religieux, puisqu'il s'agit justement de l'héritage grec, de l'hellénisme tardif, et c'est de cette tension polaire extrêmement féconde et même fécondante qu'est née la pensée européenne. Finalement, la scolastique, latine, musulmane, hébraïque, elle est médiévale, mais elle n'est pas moyenâgeuse. C'est quelque chose qui est parmi les plus grandes richesses de l'Europe. Maintenant, à propos de l'identité, qu'est-ce qui fonde une identité ? Ce sont les valeurs. Ces valeurs sont fondatrices d'identité et formatrices d'opinion au sein du judaïsme. Parce qu'il faut savoir de quel judaïsme nous parlons. Si vous parlez du judaïsme biblique, lui-même souffre, si je puis dire, d'hétérogénéité. Prenez un exemple. Le livre de la Genèse est un livre extrêmement pacifique. Il n'y a pratiquement pas de sacrifice sanguinolent. Il n'y a que des offrandes d'huile, de vin et de farine. Alors on y a par la suite, par des relectures, introduit les sacrifices sanguinolents. Mais même l'installation en Terre Sainte ne prend pas du tout la tournure d'une expédition militaire. Et l'enterrement du patriarche qui a donné son nom à Israël, c'est-à-dire Jacob, en réalité il s'est agi de la fusion de deux clans, mais on n'a pas voulu le dire, j'espère qu'il n'y a pas trop de rabbins barbus qui m'écoutent, mais on n'a pas voulu le dire, et en réalité, quand on a dit « tu t'appelleras Jacob, tu t'appelleras Israël et plus Jacob », c'était tout simplement la fusion de deux clans. Eh bien, ce Jacob, il a un enterrement de première classe. L'auteur de la Genèse est enthousiaste en disant « l'habitant du pays de Canaan, tout ce qui comptait en Égypte, tous les fils d'Israël étaient là, quel enterrement !» On n'a jamais vu ça, une telle unité. Mais à partir du premier livre de l'Exode, tout change. Parce qu'il y avait eu des changements, il y a eu des relectures et il y a eu probablement dans l'intervalle, des défaites de l'entité judéenne, c'est-à-dire de la petite Judée face aux grandes phalènes politiques de l'époque, l'Égypte et la Syrie, à l'apostrophe A. Voilà. Donc, si vous voulez, cette culture juive en elle-même était en quelque sorte ambiguë. À l'origine, elle était ouverte, si je puis dire, et puis, sous les coups de l'histoire, qui ont toujours été défavorables à Israël, je parle de l'Israël cosmique, mystique, pas seulement de l'État d'Israël, que je trouve un très bon État, soit dit en passant. Mais toutes ces choses-là ont fait qu'il y a eu des tensions internes au sein même des représentants de la culture juive, et que petit à petit, cette grande ouverture, ce grand universalisme qui s'est retrouvé avec Jésus, a été contrarié par les aléas de l'histoire. Or, cette tension polaire dont je parlais au début a quand même été créatrice et extrêmement féconde, puisque, regardez, les Juifs, à part la Bible, qui est quand même pas rien, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la terre ancestrale? À part la Bible, pratiquement rien. Même le Talmud dit de Jérusalem est en réalité un Talmud de Tibériade, puisque, à cause de ce méchant Adrien, les Juifs n'avaient plus le droit de s'installer à Jérusalem, elle avait été interdite, elle avait même été débaptisée. Elle s'appelait Eolia Capitolina. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu une course chez les Juifs après l'universel, course ou amour de l'universel, contrarié par les contingences de leur histoire nationale. Et puis cette phrase de Renan, qui est absolument impeccable, Renan auquel j'avais consacré un livre qui m'a, de tous mes livres, c'est celui qui m'a le plus plu, qui m'a le plus amusé, qui s'appelle Renan, la Bible et les Juifs. Il a écrit quelque part, Israël était condamné à oublier sa propre histoire en écrivant celle de l'humanité.
C'est extrêmement intéressant de vous écouter, Maurice Ruben Ayoun. Il nous reste juste une minute, mais j'aimerais aborder, enfin j'aimerais, pour donner un aperçu de votre livre, vous présentez bien les enjeux, les problématiques qui sont en jeu dans la question de l'identité juive, mais vous vous posez cette question de manière très contemporaine également. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment définir l'identité juive aujourd'hui que la culture européenne prend une dimension peut-être plutôt politique? Vous insistez sur le changement qu'induit pour l'identité juive la constitution d'une Europe qui serait politique. Et de ce fait, vous montrez bien comment il est difficile pour définir l'identité juive de prendre en compte ce qu'est l'Europe actuellement.
Absolument, je dirais de manière très lapidaire. L'identité juive a toujours été une identité éclatée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une identité accidentée. Pas accidentelle, accidentée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui comprend à la fois la religion juive et la culture juive. Alors vous allez me dire, ce ne sont pas nécessairement des entités opposées. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Le fait historique, parce que les Juifs ont beau se dire le peuple de Dieu et de la révélation, ils ont quand même été soumis à rude épreuve. Donc si vous voulez, il ne faut pas que la renaissance de l'histoire remette les anciens démons dans la conscience juive.
Et ça, vous le montrez très bien dans votre livre. Merci beaucoup, Maurice Ruben Ayoun. On est déjà à la fin de cet entretien. Le titre de votre livre, L'identité juive et la culture européenne, sachons préserver notre héritage commun, et on trouve ça chez Pocket. Et vous êtes aussi l'auteur d'une petite histoire de la philosophie juive qu'on trouve chez Ellipse.
Et c'était tout à fait passionnant, effectivement. Vous vouliez nous parler également du signe, Adèle.
Oui, depuis la semaine dernière, on trouve en librairie un essai original qui s'appelle Le jeu du signe, dont l'auteur est le linguiste Louis-Jean Calvet, qui se pose la question qui est à la base de la linguistique, à savoir comment se construit le sens dans un contexte donné. Alors pour répondre à cette question, l'auteur étudie notamment la question des lapsus, à partir d'un corpus de citations tiré de la campagne présidentielle de 2007. On trouve ça dès le premier chapitre, c'est très bien fait, c'est plutôt amusant. Il se pose également la question de l'inconscient dans la langue, alors cette fois à travers un autre type de corpus, non plus politique, mais tiré de la chanson populaire française, Ferré, Brassens et Bobby Lapointe. En dehors de la politique et de la chanson, l'auteur s'intéresse aussi à la schizophrénie langagière, à travers l'étude d'un cas de psychotique qui refusait de parler le langage de sa mère. Voilà. C'est un livre qui, en plus d'être intéressant, est souvent amusant. Et le mélange de références fonctionne très bien. C'est Le jeu du signe de Louis-Jean Calvet. Et on trouve ça au Seuil.
Voilà, que des bonnes choses aujourd'hui. La physique d'Aristote, Maïmonide et Aristote, du sperme compact à l'amour de l'universel et les contingences nationales, c'était le mélange du jour. On se retrouve demain de 10h à 11h comme tous les jours pour la suite de cette semaine sur Aristote en compagnie de Francis Wolff dont on a parlé aujourd'hui donc et qui viendra demain vous parler des politiques d'Aristote. Vous verrez, c'est passionnant.
On se retrouve aussi à toute heure du jour et de la nuit sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous pourrez réentendre et télécharger toutes les émissions de la semaine, si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi toutes nos indications bibliographiques, parmi lesquelles la physique d'Aristote, traduite par Annick Stevens, Chevrin. France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.